À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour Serge, bonjour Laurent.
Bonjour Alain, bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui, on va faire une petite balade en Italie, un petit peu originale peut-être. On vous maintient en haleine. Tout d'abord, un petit peu d'actualité. Alors l'actualité de proximité, c'était il y a quelques jours, une journée chez la librairie Majolir, à la librairie Majolir, où il y avait deux temps. Un temps fort du matin qui était une réunion entre un éditeur français et enfin une rencontre plutôt entre un éditeur français et un éditeur du Piémont, l'éditeur français Le Monde à l'envers et l'éditeur italien Tabor, qui est dans Tabor. Le Piémont, que Serge connaît bien puisqu'est lui qui les a découverts.
Il habite à Ramat. Ramat, on connaît bien quand on passe le tunnel, il y a un tunnel qui est le tunnel.
Voilà, qui est vers le Valais de Suse. Voilà.
Un vent sous.
Donc, une table ronde qui était animée par Dominique Morin, où il y avait une belle assistance, et où Nicolas Bonanni pour Le Monde à l'envers, Maurizio Poletto, et Daniele Pepino ont débattu du monde militant, on peut dire, et de deux réalités, celle de la vallée de Suse.
Val d'Aoste, la haute vallée d'Aoste.
Et de Suse.
De Suse, oui.
Et puis de Grenoble et des différents combats, entre guillemets, luttes plutôt, les uns contre le TAV, c'est-à-dire le train à grande vitesse, mais pas seulement.
Pas seulement.
Et l'autre sur l'opposition au Central Park du Chambaran.
Entre autres.
Donc, eux aussi, pas seulement. C'était très intéressant avec deux, Nicolas et Daniel, et qui sont de jeunes hommes, et Maurizio, qui est un tout petit peu plus âgé, qui a beaucoup d'humour, entre parenthèses, et avec une vision du militantisme à la fois qui se rejoint et un petit peu différente, en ce sens que tout en traitant de différents sujets hors vallée, les amis italiens ont des luttes de territoire quand même, et puisqu'ils sont dans un secteur très montagneux, et ils disent que ces luttes-là ont amené à
une sorte de fédération,
un regroupement des gens qui commencent à sortir et ne plus regarder la télé.
Depuis qu'après le Fréjus, je ne prends plus l'autoroute et que je prends la vallée pour m'arrêter chez l'un et chez l'autre, on sent avec les différentes personnes qu'on peut connaître une unité, ils se connaissent tous, quand on a besoin de quelqu'un, ils ont toujours quelqu'un qu'ils connaissent.
Et puis ils traitent aussi par le biais d'une revue de d'autres sujets internationaux, et Nicolas, eux aussi, éditent des revues ou des petits bouquins, et c'est assez cette rencontre a été très intéressante avec un public intéressé aussi. On n'était pas obligatoirement d'accord tout le temps sur ce qu'il pourrait dire, et entre nous non plus d'ailleurs, mais c'était bien, et bon, on en passera peut-être quelques extraits, ou en tous les cas on vous retrouverez la rencontre sur le site d'INIS. Et puis, en tant qu'éditeur, en tant que lutte, je voulais dire, le Tabor. Inévitablement, on a posé la question sur Eri De Luca, puisque Eri De Luca, on en a parlé ici sur 97.1, avait des soucis dans son combat aux côtés de tous ces gens. Il avait un souci avec la justice italienne, puisqu'à une époque, il avait prononcé le mot sabotage pour le Lyon-Turin. Son procès a été reporté, puis finalement, là, il a eu lieu. Donc, il a été accusé d'instigation à sabotage. Je passe tous les chefs d'accusation. Il a été le juge, donc c'était au tribunal de Turin. Le juge a demandé à son encontre, finalement, 8 mois de prison. Et alors Eri De Luca, en sortant, alors c'était un réquisitoire d'Antonio Rinaudo de la cour du tribunal de Turin, donc, et en sortant, De Luca souriait en disant, bon, bah, je pense avoir plus, parce que deux choses l'une, ou je cite à sa beauté, et dans ce cas-là, je mérite beaucoup plus que 8 mois, ou c'est du blabla, et dans ce cas-là, on n'en parle plus, quoi. Donc, en accord avec Gianluca Vitale, qui est son avocat, ils ne feront pas appel. Là, c'était donc la demande du juge. Le verdict lui-même se prononcera dans quelques semaines. Et Gianluca Vitale et Eri De Luca sont d'accord pour dire que, de toute façon, ils ne feraient pas appel de la décision. Ils ne veulent pas de sursis. S'il a 8 mois, il les fera. Mmh. Mais j'ai l'impression que, vu le soutien qu'il y a autour, on espère pour lui, il ne sera pas.
Enfin, s'il rentre en prison, j'imagine quelque chose un peu comme José Bové aller en prison, voilà, avec un cortège, voilà, pour l'accompagner.
Alors, ce qui était intéressant, c'était la réaction quand même de Maurizio et de Daniele là-dessus, qui, je pense apprécier Eri De Luca, mais qui, ce qu'il regrettait un petit peu, c'est que finalement leur lutte qui existe depuis des années se soit focalisée sur le cas Eri De Luca.
C'est quelqu'un qui est connu. Donc,
d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi un bien d'avoir quelqu'un qui relaie? Enfin, c'est l'éternel débat. Donc, dans les réalisations de Nicolas Bonanni et du Monde à l'envers, il y a notamment la publication de 2 bandes dessinées sur l'immigration italienne et plus précisément sicilienne au quartier de Saint-Bruno à Grenoble, et l'immigration maghrébine. Et ça a été le sujet de l'après-midi, qui a été traité là aussi sous forme de rencontre et table animée encore par Dominique Molin, qui a interviewé Colline Picot. Là aussi, c'était bien. Bon, l'immigration italienne, ça nous parle, parce qu'on a fait une enquête, d'état de collectage depuis 2 ans. On en passera sur
Couleur FM
bientôt, par petites séquences. Et l'immigration maghrébine aussi, qui n'est pas du tout à la même époque, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent. Et on avait une animation musicale et italienne et africaine par le couple Gagliardo, qui joue de l'orgue de Barbarie et qui chante de Grenoble, et par Brahim Lee et son groupe qui slam, qui chante aussi en français, en wolof. Donc à cet intermède entre les deux temps forts. Voilà. Sinon, dans l'actualité italienne, cette fois, on va être complètement dans notre sujet du jour. Et le gouvernement italien a confirmé son nom, le nom NON, à l'instigation de l'Union européenne d'utiliser maintenant le lait en poudre pour la fabrication du fromage notamment. Alors l'Italie a répondu à la Commission qu'elle voulait maintenir sa directive nationale actuelle, c'est-à-dire cette directive qui interdit absolument l'usage de ce lait en poudre pour la production de fromage et de produits dérivés du lait.
Le combat du lait cru est terminé, le lait cru a gagné, donc là, il y a un autre combat qui se profile, quoi.
Alors la ministre de l'Agriculture, Maurizio Martina, soutenue par Matteo Renzi, a donc adressé sa réponse à Bruxelles et en disant que chaque État membre normalement est libre de faire ce qu'il veut au niveau des directives européennes lorsqu'elles ne sont pas directives.
Quand c'est pas obligatoire de les transposer.
Voilà, d'obligation. Et donc eux, ils resteront sur leur position, ils se battront pour cette position si jamais on devait les obliger. Et donc cet engagement, on le respectera jusqu'au bout. Alors bien sûr, le lait en poudre, la Coldiretti par exemple, qui gère un peu tout ce qui est agricole en une association de différents agriculteurs en Italie, donner un exemple, par exemple, sur le marché, si on achète 1 kilo de poudre le lait, qui vaut grosso modo 2 euros, on peut produire 10 litres de lait avec 2 euros. Quoi. Mmh. Ce qui est complètement... 15 mozzarella, disent-ils, ou 64 pots de yaourt. Ce qui est évidemment le goût, la texture...
Puis savoir ce qu'il y a dans la poudre.
Non, plus rien à voir avec...
Et la France
Alors, la position de la France, on n'en parle pas trop en ce moment. Et J'espère qu'elle est dans le même sens que l'Italie. Sinon, c'est plutôt... Quand on n'en parle pas, ça devient un peu... Pas inquiétant, mais il faut, faudra qu'on aille...
C'est qu'en France, il y a un gros faiseur qui est Besnier, qui doit tenir la plume.
Ah ouais, alors je connais moins ce domaine que toi, mais sans doute. Enfin bref, donc tout le monde est bien d'accord en Italie là-dessus, hein, pas seulement le gouvernement. D'ailleurs, il y a une pétition populaire, si on peut dire, et il y a des dizaines de milliers d'Italiens qui ont soutenu le non. Et il y a même une mobilisation des agriculteurs dès la sortie du tunnel du Brenner, là, c'est-à-dire toute cette zone.
Ah oui, avec l'Allemagne, et l'Autriche.
Et puis qui sont allés jusqu'à l'expo de Milan pour donner symboliquement cette lettre de refus. Voilà, donc on parlera beaucoup de fromage aujourd'hui et on va commencer à écouter un petit morceau.
De musique,
tu vas nous parler
pas de fromage.
Oui, un petit morceau de musique, mais qui va nous inciter à manger d'ailleurs un peu de fromage. Et toi, tu vas nous parler d'un salon dont tu reviens. Et tu nous parleras peut-être des différents salons qui existent au niveau du goût en Italie.
Donc c'est la Biennale du fromage. C'est comme ça que Slow Food l'appelle.
Abra. Voilà, alors on va écouter, on peut pas dire une chanson, on va écouter une recette en musique, parce qu'il y a quelques années, pas si vieux que ça d'ailleurs, comme disque, comme CD, beaucoup de musiciens de jazz ou de voix du jazz italien se sont fendus d'un double album avec musique et d'un côté et musique et recettes de l'autre, recettes venant de différentes régions. On sait que l'Italie, comme la France, est très liée à la cuisine, à la musique. Et ils ont cette idée qui est assez originale. Donc, on va écouter par le New Quartet une première recette musicale, on va l'appeler comme ça. Et il s'agit de la recette des nudi di spinaci e ricotta.
Donc, c'est de quelle région, disent
la région. Alors, la ricotta est faite dans toute l'Italie,
oui,
en fait.
Oui.
On en parlera peut-être.
Mais la meilleure est à Murazzano.
Voilà, alors on va justement, tu vas nous en parler. Donc les nudi d'épinard, je vous ferai la traduction de la recette après, on va écouter la musique.
Ciao, benvenuti a casa New. Questa sera c'è una festa, vi abbiamo preparato gli nudi di spinaci e ricotta. Gli ingredienti per gli nudi?
Gli nudi.
300 grammi di ricotta di pecora o mista. 700 grammi di spinaci surgelati o freschi. Meglio. Un uovo, sale, pepe, peperoncino quanto basta, 40 grammi di grana e una manciata di prezzemolo. Tritate il prezzemolo, grattugiate il grana, come dice la parola, e poi mettete tutto in una capiente terrina e fatelo mescolare dal vostro amico giapponese. Dopo che avrete finito l'impasto, assaggiatelo rigorosamente con il dito mignolo, aggiustate di sale, perché ne avevate sicuramente messo poco, e create delle piccole palline. Se proprio non vi vengono, potete aggiungere anche un po' di farina all'impasto. Tenete da parte queste palline saranno i vostri...
nudi.
Per la salsa, invece, prendete un po' di olio di oliva, mettetelo in una padella e aggiungete uno spicchio d'aglio vestito. Il resto della salsa direi di farla fare dal nostro amico spagnolo, l'esperto de salsa Juan. La salsa se hace así, se pone la passata de pomodoro en el sofrito que stavate facendo prima. Poi mettete sale, peperoncino e qualche foglia de basilico. Fino a quando la salsa non è perfettamente cotta e saporita potete lasciarla così. Ci sono amici nostri che preferiscono il coriandolo. In ogni modo, una volta che la salsa è pronta, voi prendete gli nudi, fate bollire una bella pentola d'acqua con un po' di sale e quando arriva a ebollizione buttate gli nudi. Appena vengono su li scolate, li condite con la salsetta e buon appetito.
Gli nudi.
Voilà, alors vous avez compris que les gnudi, c'est des boulettes d'épinards. Alors vous avez compris aussi qu'il y a trois accents différents, parce que suivant l'ingrédient, par contre, pardon, on parle de, on a l'accent japonais à un moment, l'accent espagnol ou l'accent d'Afrique du Nord, notamment pour l'Afrique du Nord parce qu'on les préfère avec de la coriandre ou d'autres pays avec autre chose. Et puis on entend aussi des fois la vaisselle qui se casse. Ils sont de bons musiciens, ils ont beaucoup d'humour en pot. Bon, les ingrédients, c'est 500 grammes d'épinards. Alors il dit ou surgelé ou frais,
mais c'est meilleur, frais, c'est meilleur.
500 grammes de ricotta de vache, 2 œufs, 70 grammes de farine, 6 feuilles de sauge, 100 grammes de parmesan râpé, 50 grammes de beurre fondu, du sel, du poivre, de la noix de muscade. Il faut mettre la ricotta reposant dans une passoire pendant quelques heures. Et au mieux encore, la veille au soir. Et puis après, dans ce cas-là, on la met au réfrigérateur si c'est la veille. On lave les épinards, on les fait bouillir dans un peu d'eau. On peut également utiliser, mais là aussi, c'est déconseillé, des épinards surgelés. On pétrit la ricotte avec de la farine et le parmesan. On mélange et on unit le tout avec une pincée de noix de muscade, du sel, du poivre, pour ceux qui veulent du persil, de la coriandre. On amalgame avec soin en ajoutant les épinards après les avoir bien essorés, hachés au couteau. On porte à ébullition une marmite d'eau salée. On forme des petites boulettes, donc des petites ovales. Et on les fait bouillir jusqu'à ce qu'elles remontent, un peu comme les gnocchi, à la surface. Et entre-temps...
Les passatelles. Aussi.
On fait fondre le beurre avec la sauge, on fait sauter les noudis délicatement dans la sauce de la poêle, on sert chaud, on saupoudre de parmesan et selon votre plaisir et votre goût, il est possible de remplacer le beurre et la sauge par une sauce tomate, du basilic ou de l'huile. Voilà, alors vous n'avez sans doute pas eu le temps de prendre la recette, mais on pourra la mettre sur le site d'Inis. Alors, un usage là de fromage, comme souvent dans les plats en Italie.
Surtout la ricotta.
Alors la ricotta, en deux mots, c'est un fromage frais qui peut être de vache ou de brebis, qui peut être un mélange des deux d'ailleurs, et qui, on va dire, est faite dans toutes les régions d'Italie, mais dont les meilleurs sont peut-être en Piémont et Lombardie.
Surtout dans l'Alta Langa.
Voilà, donc du Piémont. Donc Serge, tu reviens de ce fameux salon de Bras et tu voulais mentionner d'autres salons peut-être aussi.
Voilà, donc à Bras, il y avait l'association Slow Food qui organisait sa biennale du fromage le 18, 19, 20 et 21 septembre. Alors Slow Food, c'est une association internationale maintenant qui a 30 ans, qui s'occupe des bons produits et surtout de la bonne façon pour les faire. Slow Food organise le Salon du Goût à Turin depuis 20 ans, puisque c'est la 10e édition. Et Cheese est toujours organisé tous les deux ans. Et c'est aussi la 10e édition. Et Slow Food organise une exposition, un salon aussi à Gênes sur le poisson, mais que je ne connais pas. Alors, le salon de Cheese se situe dans la ville de Bras, donc qui se trouve à 60 km au sud-est de Turin, et c'est assez sympathique parce que ce sont des stands dans la ville, il n'y a pas un droit d'entrée à payer pour rentrer dans le grand hall, c'est dans la ville, et c'est financé par les exposants qui vendent en général. Donc il y avait deux parties, les fromages du monde, enfin le monde réduit à 25 pays, mais c'était bien quand même. Et puis les fromages sentinelles de Slow Food. Alors on avait expliqué il y a un an ou deux ce que c'était les produits sentinelles de Slow Food. C'est des produits que Slow Food accompagne sur le plan technique, marketing et commercialisation. Et donc, ils avaient rassemblé tous ces fromages donc, dans une même rue. Alors, Slow Food, pour donner un peu une idée des orientations de Slow Food, a signé à l'occasion de ce salon de cheese une déclaration avec la Confédération paysanne française. J'en ai tiré quelques phrases. Je cite, nous devons faire le choix entre une agriculture qui transformerait les fermes en usines et qui, par la même occasion, finirait d'exterminer la paysannerie ici et ailleurs. Donc ailleurs, faut voir dans le tiers-monde. Autre citation, la crise actuelle n'est pas tombée du ciel. Elle est notamment le résultat des réformes successives de la PAC depuis 40 ans et en particulier de la gestion des quotas laitiers, de l'intégration de l'agriculture et de l'alimentation dans l'arène impitoyable du commerce mondial. Et pour finir cette déclaration, la Confédération paysanne et Slow Food disent « Des pionniers et entrepreneurs ont depuis des dizaines d'années pris d'autres chemins que celui imposé par l'industrialisation. Les solutions existent un peu partout sur la planète, telles les lanternes à suivre pour revisiter profondément notre modèle agricole et alimentaire. Il n'y a rien à inventer, il faut juste mettre en pratique. » Alors, le salon de Slow Food, il y a des exposants de fromage, donc on goûte le fromage. Ce sont des tout petits morceaux, bien sûr, mais qui font peut-être 3 mm sur 3 mm chacun. Mais ça suffit pour en apprécier le goût. Et surtout, quand on en mange l'après-midi, le soir, au repas, on mange pas de fromage. Alors, en plus de ces exposants, Slow Food organise des conférences et a remis un prix. C'est le prix de la résistance fromagère. Alors, ce prix, ça pourrait faire rire comme ça, mais je trouve qu'il est très significatif et en lien avec la convention, la déclaration passée avec la Confédération paysanne. Et ce prix, cette année, c'est un Français qui l'a obtenu, non pas à titre individuel, mais en représentant une coopérative. C'est monsieur André Valatier, qui est auvergnat et qui est de l'Aïeul, donc au cœur de l'Aubrac. L'Aubrac, c'est un magnifique plateau d'herbe à en gros 1100 mètres d'altitude, on va dire entre Clermont-Ferrand et Rodez, à 55 km au nord de Rodez. Et André Valatier a 80 ans maintenant et il a été un des fondateurs et le président de la coopérative qui existe toujours, qui s'appelle Jeune Montagne. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire.
Donc, s'il est auvergnat, il est français. Donc,
oui. Français, hein, quand on va à Clermont, ici, il y a un panneau. Ici commence l'Auvergne, à la limite du Puy-de-Dôme. à la fin des années 50, ces agriculteurs de l'Aubrac vivaient de lait et du commerce des vaches à lait. Alors, ces vaches avaient un trait caractéristique. C'est la race de l'Aïeul. C'est une des plus belles vaches de France, qui a de beaux yeux. Et,
tu sais.
Oui, c'est vrai. Et ces vaches étaient très appréciées pour leur qualité de traction. Et tous les céréaliers préféraient acheter des vaches l'Aïeul. Par contre, quand les tracteurs sont arrivés, eh bien, les agriculteurs ont vu un effondrement de leur chiffre d'affaires, puisque leurs vaches qu'ils vendaient en gros 30 ou 40% de plus que le prix à l'abattoir, eh bien, vendaient plus du tout de vaches. Dans ces années-là, donc fin des années 50 et 1960, il y a eu les lois qui ont vraiment réformé l'agriculture en France, qui sont les lois Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et en gros, si on résume d'un mot ces lois, elles disent « on va intensifier l'agriculture ». Donc imaginez une intensification à 1100 mètres d'altitude avec des paysans un peu isolés à l'époque, toutes les routes n'étaient pas goudronnées, c'était quasiment mourir pour eux. Et contrairement à d'autres agriculteurs, je pense à l'Ille-et-Vilaine qui ont quitté leur exploitation agricole pour aller chez Citroën à Rennes, ils ont bénéficié du concours d'un sociologue et d'un agronome du CNRS qui ont fait une étude sur place. Et on peut résumer cette étude en disant on va faire avec nos moyens et sur place. Et là, ils ont développé un fromage qui s'appelle la tome de l'Aïeul, qui ressemble un peu à du Cantal. Hein, mais la particularité de cette tome, c'est que lorsqu'on l'a mange fraîche, c'est-à-dire une fois que le cahier a 3-4 jours, on fait avec de l'aligot, donc qui est un mélange de ça et de pommes de terre. Et c'est très bon. Donc ça, c'était un plat local des bergers. Quand les vachers redescendaient le lait des plateaux, donc on faisait l'aligot. Et à la fin des années 60, donc ils ont été à ce moment-là complètement à contre-courant, puisqu'on leur disait en gros « partez », quoi. Ils ont créé cette coopérative Jeune Montagne, et qui existe depuis, donc 1960. Et pour résumer l'essor de cette coopérative, elle fait actuellement, je crois, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le prix moyen du lait payé aux agriculteurs est en gros de 50 centimes le litre contre 29 centimes à 30 centimes à ceux qui vont vendre leur lait pour faire de la poudre et pour faire Des fromages, peut-être pas en Italie, mais ailleurs. Voilà, donc je tenais à souligner ce prix de la résistance fromagère parce que M. Valatier, avec cette coopérative, en est un bon exemple.
Ils n'ont pas de souci, vu le territoire de l'Aïeul, le même souci que pour les couteaux ?
Non, parce que les fromages ne sont pas une marque déposée. Quoi. C'est vrai que ceux qui ont géré les couteaux à l'Aïeul, ils auraient pu se faire entourer de scientifiques au départ pour déposer leur marque.
Voilà, on réécoute un petit morceau.
Un petit morceau de quoi ?
Alors, toujours dans le même esprit, là, on va écouter par Musica Nuda, qui est un duo contrebasse et voix, avec Petra Magoni. Si un jour ils passent dans la région, je sais qu'ils sont passés à Lyon il n'y a pas longtemps, allez les voir, c'est vraiment super. Donc là, on va les écouter dans une recette de Zitti. C'est une sorte de ça ressemble un peu au cannelloni et c'est là aussi à base de viande hachée, de ricotta, d'oignon, de parmesan, de sauge, marjolaine, de thym, d'œuf, de vin blanc. Encore une fois une recette avec utilisation de fromage. Zitti par Musica Nuda.
Per il ragù
800 g di lacerto di manzo,
50 g di prosciutto,
70 g di pancetta,
mezza cipolla,
aglio,
prezzemolo,
vino rosso secco,
2 decilitri di olio extravergine di oliva,
200 g di concentrato di pomodori,
sale,
pepe.
Per il ripieno
200 g di carne macinata,
250 g di ricotta,
mezza cipolla,
parmigiano grattugiato,
salvia,
maggiorana,
timo,
un uovo,
vino bianco secco,
olio d'oliva extravergine,
sale,
pepe.
Preparazione.
Fate soffriggere in una padella aglio,
cipolla,
pancetta
e prosciutto
e aggiungetevi la carne.
Irrorate con il vino rosso e quando sarà sfumato
mettete i pomodori e lasciate cuocere.
Per il ripieno
soffriggere in olio ben caldo la cipolla
e aggiungervi la carne macinata
e gli aromi.
A cottura ultimata
lasciate raffreddare
e mettere in una terrina
in cui aggiungerete la ricotta,
il formaggio
e l'uovo.
Riempite con il ripieno 600 g di ziti
o un'altra pasta fatta in casa
e poi sistematele in una pirofila.
Coprite con il ragù e infornate
per 25 minuti.
Wow. E buon appetito!
Facciamo buon appetito un po'.
E buon appetito!
Voilà, donc Musica Nuda, bon, je vais pas vous donner la recette, là encore, vous la trouverez sur le site d'Inis. Donc là, sur 97.1, vous avez aujourd'hui compris qu'on vous parle du fromage. Alors, contrairement à ce qu'on croit, l'autre pays du fromage, on nous en cite quelques-uns, mais l'autre pays du fromage, pour nous, alors je ne sais pas si on est complètement objectif, mais c'est quand même l'Italie. Quand on voit les chiffres du fromage en Italie, c'est très clair, hein, le plus gros producteur de fromage au monde, si on en croit les statistiques officielles, ce sont les États-Unis avec 4 millions de tonnes à peu près. Mais bon, quel fromage, et vu la grosseur du pays. L'Allemagne en produit beaucoup aussi, hein, 1,9 million. La France vient en troisième position, 1,8 million. L'Italie, 1,1 million. Et la Hollande, 672 000 tonnes à peu près.
Alors j'ai cherché des chiffres aussi sur la production au lait cru. Bon, j'ai pas trouvé, mais en réalité, c'est la seule qui compte.
Oui, bien sûr. Et puis en Italie, il y a beaucoup de fromages d'appellation. Il y en a plus de 300, il y en a entre 300 et 400. Alors il y a différentes appellations, bien sûr, mais je sais pas moi si on vous dit évidemment gorgonzola, parmigiano,
ça c'est connu,
mozzarella, et on insiste, hein, la mozzarella de buffle, hein, pas toutes les imitations qui peuvent exister. Et bon, bien sûr que la plupart des gens connaissent, mais la fontina, le fromazzo, le bagos, on avait découvert en début d'année
le bagos en
Lombardie, à la limite du Trentin, c'est un fromage qui est très très bon, un fromage jaune, parce qu'il y a du safran dedans, signe de l'ancienne République de Venise. Le Castelmagno, alors le Castelmagno, comme dirait Guy Savoie pour le parmesan, qui considère comme l'aristocrate des fromages, beaucoup de Français disent que le Castelmagno, c'est un aristocrate dans le fromage.
Donc Castelmagno, si on peut dire juste un mot, c'est un petit village composé seulement de hameaux du Piémont, qui est à, en gros, 1600-1700 mètres. Et j'ai compris qu'il y avait un Castelmagno d'hiver et d'été, un peu comme le Beaufort. Et il y a le Castelmagno d'alpage où le lait est traité et trait donc jusqu'à 2300 mètres à peu près.
D'accord. Et le Castelmagno, bon, tous ces fromages, pour les, évidemment, si vous aimez le vin, vous pouvez les déguster avec du vin ou autre chose. Souvent, on conseille de manger le Castelmagno avec du Barbaresco ou de l'Amarone de Valpolicella. L'Amarone di Valpolicella, c'est un grand
Alors,
vin.
Moi, je disais tout à l'heure que je ne prends plus l'autoroute quand je descends le Val de Souze. Si vous allez faire la même chose, vous allez à Novalaise et à côté de l'abbaye, il y a un producteur de fromage, le nom est facile à se rappeler, il s'appelle Corbusier. Et il y a un fromage, je ne pense pas qu'il ait un nom particulier, mais qui est très bon et très fait.
On voit que si tu connais bien cette zone.
Le Piémont, oui. Je ne veux pas réduire l'Italie au Piémont.
Sinon, tu vas nous en parler aussi sans doute tout à l'heure. Bon, on a dit le Gorgonzola, le Murazzano, la Raschera, le Robiola, la Tome Piemontese, le Bit. Le formaggio des moutes de la Val Brembana, le provolone et le quartirolo, le taloeggio, voilà un fromage qui est bon, la Valtellina Casera, le Grana Padano, celui qu'on confond souvent avec le parmigiano, l'asiago, le montasio, le monteveronese, le formaggio di Fossa di Soliano, le pecorino, alors les pecorini, quand vous avez
fromage de brebis.
Ce sont des fromages de brebis, le pecorino toscan, qui est donc, comme son nom l'indique, situé en Toscane, même si maintenant ils font venir des brebis de Sardaigne. La Caciotta, le Pecorino Romano, qui lui, comme zone, est fait avec du lait de Sardaigne et du Latium notamment. La Mozzarella, on disait de bouffe à la Campana, la seule. Le Canestrato de la Dépouille, le Caciocavallo, le Ragusano, le Pecorino Siciliano, le Fiore Sardo, le Pecorino Sardo. Le Pecorino Sardo, pour moi, c'est un grand fromage. C'est un fromage de brebis, là aussi. On pourrait en citer beaucoup d'autres.
Alors, on va s'arrêter sur un fromage qui était donc exposé à Cheese. C'est du fromage de brebis de la ville, enfin, du village de Murazzano.
Juste une petite parenthèse, excuse-moi, Serge, pour ne pas oublier. Souvent, en fait, ce qui fait dire en France que les Italiens ne mangent pas de fromage, c'est que le fromage, à la fin d'un repas, est peu servi.
C'est vrai qu'il...
Il est servi en dehors des repas, souvent. Soit quand on invite des copains, soit quand on va faire un petit... une petite dégustation avec un morceau de charcuterie ou du vin ou autre chose. Mais il mange, dans ces cas-là, avec de la confiture, avec du miel, avec des tas de... Et suivant les régions, avec des tas de possibilités différentes. Si vous allez dans les Dolomites, ils vont mettre le fromage avec évidemment de la myrtille, des confitures de myrtille, dans d'autres régions. En Sardaigne, c'est beaucoup avec le miel, en d'autres régions. Et c'est vrai qu'en France, on a cette vision de l'utilisation du fromage. Comme elle n'est très rarement, enfin, des repas, tout au moins dans les restaurants, on dit que les Italiens ne mangent pas de fromage, ce qui n'est absolument pas vrai.
C'est vrai que quelquefois au restaurant en Émilie-Romagne, on était donc français à travailler là-bas, on mangeait quelques morceaux de parmesan à la fin du repas. Il fallait expliquer un peu qu'on le voulait en morceaux et pas râpé, quoi, par exemple.
C'est une question de tradition, tout simplement. Bon, on revient donc à ton Murazzano.
Alors, le fromage de Murazzano, c'est un fromage de brebis. Murazzano, c'est un petit village de l'Altalanga, qui est l'appellation de ce fromage. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, quand je parlais de la déclaration signé entre Slow Food et la Confédération Paysanne sur l'industrialisation de l'agriculture. Là, ce fromage concerne 4 producteurs de fromage et un qui ne produit que du lait. Donc, on est loin de l'industrialisation de Parmalat. On est à peu près sûr que là, il n'y a pas trop de risque de scandale financier avec ces 4 producteurs de fromage.
J'ai peu de doute.
Donc ce brebis est une appellation DOP, c'est délimitation d'origine protégée, si je traduis, qui, pour avoir cette appellation, donc les quatre producteurs doivent suivre un cahier des charges. Alors, la première contrainte du cahier des charges, c'est avoir des brebis de la race Altalang. Alors, on ne trouve pas ça dans tous les cahiers des charges, même en France. Par exemple, le Saint-Nectaire n'impose pas de race de vache. Donc, il y en a qui en mettent des très productives, donc ça donne du Saint-Nectaire pour les grandes surfaces, et d'autres des vaches moins productives. Il faut que les brebis soient nourries à l'herbe l'été et au foin l'hiver. Alors, ce qui m'a un peu étonné quand même, restons objectifs, c'est que cette appellation tolère 40% de lait de vache dedans, mais le producteur que l'on connaît, lui, ne le fait qu'à lait de brebis. Alors, c'est un producteur qui est bien connu de l'INIS, puis il s'appelle Mario Galla.
Ah, ben oui.
Et nous avons, il tient un agritourisme aussi, et nous avons fait 3 séjours depuis 3-4 ans chez lui. Et ses adresses sont sur le site de l'INIS. Alors, je fais un peu de publicité parce qu'il le mérite.
Mais s'il le mérite, c'est logique, c'est pas de la publicité.
C'est publicité au sens latin du terme, voilà. Rendre public.
Voilà, tout à fait.
C'est
rendre service aux gens qui
voilà.
Vont aussi.
Alors, le cahier des charges comporte pas mal d'éléments qui tirent le label vers le bio. Et donc, j'avais demandé dans une interview qu'on a fait cette semaine avec Mario, mais qui est complètement inaudible, donc j'ai résumé l'interview. Et Mario nous a dit que ça demandait beaucoup de bureaucratie, donc il préférait, puis ça a un coût, comme en France, beaucoup de producteurs ne prennent pas le label bio, suivent le cahier des charges et économisent tout autant. Alors, il y a un contrôle pour vérifier ce cahier des charges qui a lieu une fois par an à peu près. Donc, Mario a 40 ou 50 brebis qui sont traites à la main, donc matin et soir. Donc, lui, Mario fait du fromage affiné et puis aussi de la ricotta. Alors, la ricotta, on a pu avoir une interview d'Isabelle, là, qui va nous expliquer tout son travail après la traite.
On fait après la traite, on met le lait dans le réfrigérateur, ou sinon on fait tout de suite du fromage.
D'accord.
Normalement, c'est après la traite du matin, avec le lait du soir et du matin, on fait le fromage.
D'accord, donc en saison, 2 traites et une séance de fromage par jour. Quoi.
Oui.
Et en gros, le pour faire les fromages donc d'une journée, ça te prend combien de temps le matin?
Eh bien, la matinée passe entre faire le fromage et puis s'occuper aussi des fromages qui ont déjà été faits, il faut les retourner, il faut les saler, il faut s'occuper.
Et alors, les fromages qui ont déjà été faits, tu les retournes tous les jours, tu les sales une seule fois, j'imagine?
On les sale au bout de quelques jours et on les retourne une fois par jour la première semaine.
D'accord.
Voilà, et après, seulement une fois par jour.
D'accord. Et ils sont posés sur quel genre de support? Parce que ça fait 4 fois que je vais chez toi, j'ai jamais été voir.
On a des grilles qui sont en acier. Par-dessus, on a encore une autre grille qui est actuellement en plastique. Dans le passé, c'était de la paille ou des étagères en bois. Et pour faire sortir le petit lait pour aérer le fromage pour le sécher.
D'accord. Alors, quand on va dans votre agritourisme, on mange très bien, mais on mange très bien surtout un bon produit qui s'appelle de la ricotta. Alors, dis-moi comment c'est fait et puis qu'est-ce qu'on en fait?
La ricotta, c'est un produit qui est fait en faisant cuire le petit lait. Après avoir fait le fromage, ce qui reste, c'est le petit lait.
Oui.
On le fait cuire. Et quand il arrive à température de 90 degrés environ, la ricotta monte en surface, on la recueille, on la met dans ses faisselles, et c'est un peu comme un fromage blanc.
Oui, donc, oui, oui.
Et on peut l'employer soit salé.
D'accord.
On le mélange, par exemple, on fait, c'est typique au printemps, la torta pasqualina, c'est avec la ricotta et des herbes fraîches.
D'accord.
Et dans une tarte salée, genre quiche, mais
voilà,
fermée.
Oui.
Ou bien on peut faire des gâteaux aussi. Il y a plusieurs types de desserts avec la ricotta un peu cuite, avec des œufs, du sucre, des raisins secs, c'est très bon.
Et la ricotta, ça se garde combien de temps? Parce que comme c'est du fromage frais, ça ne doit pas se garder longtemps.
Non, il faut à peine c'est refroidi, quand on l'a mis dans les ficelles, à peine elle est refroidie, on doit la mettre au réfrigérateur et ça se garde pendant 8 jours maximum.
Voilà, donc l'interview n'était pas de très bonne qualité. Ça tient peut-être au lieu où ils habitent et peut-être au téléphone.
Oui, puis le téléphone. La ricotta, qui est souvent un petit peu déconsidérée à tort, parce que finalement, on l'utilise... Elle parlait de desserts, les desserts.
Ah oui, mais elle fait, c'est Isabelle qui fait les desserts, et elle fait de très bons desserts où elle mélange du chocolat ou de la crème de marron dedans, c'est très très bon. Et donc, à Cheese, on a goûté, même acheté, du fromage norvégien, qui est un peu du même principe. Là, Isabelle nous a dit qu'elle faisait cuire le petit lait. Alors eux, ils le font cuire à basse température pendant 8 heures. Donc, le fromage est marron foncé, et il y a eu une énorme évaporation. Il a un petit goût sucré, c'est à manger en quelque sorte. On n'en mange qu'un tout petit morceau et avec du pain, parce que c'est un peu écœurant, mais une fois en petite quantité et avec du pain, c'est très très bon. C'est une sorte de transition entre le fromage et le dessert.
D'accord. Donc là, ce sont des Norvégiens qui...
C'est des Norvégiens, ça, oui.
Et sinon, est-ce qu'il y a des pays qui t'ont surpris, que tu ne pensais pas trouver là, on va dire?
Eh bien, avant de répondre à cette question, je dirais que j'ai été surpris de voir si peu de fromage français. On a vu 2 Roquefort et puis c'est tout, je crois. Donc des fromages, oui, j'ai goûté un bleu d'Irlande qui était bon. Ce fromage norvégien, là. Et puis, il y avait un autre pays qui nous... Ah oui, j'ai goûté un morceau de gouda, mais au lait cru.
D'accord.
Je répète, du gouda au lait cru.
Et donc, le goût est
si, c'est,
identique
c'est,
à ce qu'on connaît.
C'est différent quand même. Ouais, c'est différent.
D'accord.
Bon, c'est le gouda, c'est pas à se rouler par terre, mais c'est meilleur quand même.
Très bien. On va réécouter encore un petit peu de musique. Alors là, c'est une recette chantée, là, vraiment chantée. C'est une sorte de parodie d'un vieux tango. En fait, on situe cette chanson dans l'après-guerre en Toscane. Donc Livo en a été détruite, la ville, et un habitant donc affamé, il se balade à pied, enfin balade, c'est pas vraiment de la balade, dans la ville, donc à la recherche de nourriture. Et donc dans cette chanson est prétexte à citation de plats typiques avec des plaisanteries à double sens, et disons que son envie de manger nous fait faire un parcours de la ville, en fait, quartier et puis de plaisanterie. Et la chanson s'appelle Fagioli con le cotene, c'est des haricots à la couenne. Mais alors, il y a plein d'ingrédients ou de plats qui sont cités dans la chanson, avec des coques sans plumes, des soupes, des harengs fumés, de l'agneau. Enfin, à la fin de la chanson, on n'a plus faim.
C'est comme la dégustation à Cheese.
Fagioli con le cotene.
Fagioli o leotenne, galletti senza penne, minestra sulle palle, aringhe affumiate, corbette di patate, agnello in friassea, 3 crognole, una cena, patate nitte game una verdea. Vorrei mangiare città, ma com'è brutto fare la strada a piedi, specie se c'hai una fame e non ci vedi. E dal cinghiale andai dai torricelli, faceva la polenta, ma con gli uccelli. Ho perso il filobus e mi s'è rotto il calesse, la sua mamma portisce, ed io senza speranza me ne vo verso l'Ardenza. Ti imbocco in una via, c'era una trattoria, avevo una fame e mi portava via. Vorrei mangiare città, c'era una trattoria fuori di mano che da colline mi portò a Sarviano. Chiesi il menù e lei con voce grave disse: sono spiacente, non ho che fave.
Voilà donc ce morceau qui était donc cette balade entre guillemets dans les rues de Livourne. C'était un morceau qui est tiré d'un album de Riccardo Tesi et Maurizio Geri, qui est un hommage à Caterina Bueno, qui était une grande chanteuse italienne. Alors, pardon.
Je voudrais parler du bito.
Le bito qui est pas connu ici.
Qui est très peu connu. Ouais. Alors, j'aime beaucoup le fromage, j'aime beaucoup l'Italie, mais c'est pas pour ça que quand je visite un salon de fromage en Italie, que j'en perds mon sens critique. Alors, le bito est un fromage qui est fait par 7 ou 8 agriculteurs d'une toute petite vallée qui fait peut-être 10-20 kilomètres sur la rive gauche de l'Adda vers la ville principale de Sondrio, donc dans le nord de la Lombardie. Alors, ce bito existe sous une forme, on va dire, peu affinée, qui a peut-être un an. Et puis, il existe du vieux bito qui a 7-8 ans. Alors, ce bito d'un an, on le
met... Donc, comme disent les Italiens, stagionato.
Stagionato.
Stagionato, c'est l'affinage, l'affinage. Et là, long. Hein.
Et le bito, donc, peu affiné, on le met dans les pizzocchieri, qui est une des pâtes qui ont la particularité d'être faites avec un tiers de farine de blé et 2/3 de farine de sarrasin. Alors, ce bito, celui qui est affiné pendant longtemps, était vendu 170 euros le kilo sur le salon de Bras. Bon, je crois que, à mon sens, il est bon, Mais je crois qu'on a dépassé un petit peu les bornes du raisonnable au point de vue du prix, parce que bien qu'il ait 7-8 ans, je ne pense pas qu'il faille le tourner tous les jours.
Je crois que le problème du fromage et du vin en général, que ce soit en Italie, en France, hein, ou dans d'autres pays, je ne sais pas, mais dans ceux qu'on connaît le mieux tout au moins, puis c'est des pays à fromage et à vin, et la discussion autour des prix, elle est évidente. Un jour, il faudra l'avoir, cette discussion, parce que il est absolument anormal d'avoir certaines directions, mais une bouteille à 250 euros dans un restaurant, est-ce que moi j'ai eu mangé récemment du comté à 10 euros le kilo chez un producteur qui était absolument extraordinaire. Voilà, il y a des fromages, alors sans parler de 170 euros, mais quand on arrive déjà à une trentaine d'euros le kilo pour un fromage.
Voilà, en gros, le prix des fromages sur le salon, alors dans les salons, c'est toujours 20 ou 30 % plus cher que chez l'agriculteur. Ouais. Le prix, en gros, des fromages était de 30 euros le kilo.
Voilà, qui est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais pour un prix salon,
c'est
ça fait du 25, 22 chez soi. Bon, c'est le prix d'un parmesan. Là, j'ai trouvé que 170 euros le kilo, je n'en ai pas acheté.
Oui. Ah ben c'est dommage parce qu'on en aurait dégusté à Nice et à Couleur FM.
Et sur 97.1.
Comme tout fromage, d'ailleurs, le Biteau, il a sa légende. On dit que ce sont quand ils avaient été repoussés par les Romains au-delà de la plaine du Pô, les Celtes auraient enseigné aux populations de montagne auxquelles ils sont intégrés les secrets de l'art de la production fromagère. Enfin, c'est une légende. Tous les fromages ont une légende, hein, voire plusieurs légendes. Je sais que le Gorgonzola, on pourra en parler. Il y a plusieurs histoires autour du.
Enfin, faut voir que la vallée où il y a le Biteau est pas très loin de la Suisse, hein, donc ça peut être aussi.
Alors, tu disais que qu'il pouvait être affiné sur des très longues durées, 7 ans, le parmesan aussi d'ailleurs. Mais Biteau, en dialecte local, ça veut dire éternel.
D'accord.
Voilà pourquoi il peut être affiné. Voilà pourquoi on l'appelle Biteau, c'est parce qu'il peut, il peut vieillir très longtemps. Alors dans les différentes recettes à base de Biteau, puisque tout le monde va en acheter maintenant que tu en as parlé, il y a le chiat. C'est une sorte de beignet au Biteau parfumé à la grappa.
Ah oui.
Et c'est une sorte de beignet au fromage, en fait, de beignet au Biteau parfumé à la grappa, ce qui peut, selon le prix de la grappa et du Biteau, être un délicieux et cher dessert. Et dans ce cas-là, on utilise de la farine de sarrasin, de la farine de blé, 300 grammes de Biteau. Par contre, le plus jeune, donc il est peut-être un
d'accord,
peu moins cher.
Moins cher,
un verre de grappa et du sel, voilà. Enfin, pour dire l'utilisation.
Alors, il y a un fromage que je n'ai pas trouvé dans les fromages sentinelles. Ah si, j'en ai pas trouvé dans les fromages sentinelles de Slow Food. C'est le Gorgonzola. Nous, en France, enfin moi, en France, j'en ai une vision d'un fromage très industriel. Je sais que ça se fait vers la région de Novare.
Alors,
donc, je n'ai jamais encore enquêté sur place, mais ça ne saurait tarder.
Alors, le Gorgonzola, il est bon aussi, le Gorgonzola. Mais alors après, effectivement, il y a la partie industrielle et la partie locale. Et par contre, puisqu'on parlait de l'utilisation de la légende. Alors, certains disent que c'était un caprice amoureux.
Un caprice des dieux.
Non, un caprice amoureux d'un jeune homme qui travaillait dans une fromagerie et puis quand il avait fini son travail, il voulait retrouver sa belle, hein. Et puis l'amour aidant, sans faire attention, peut-être qu'il était distrait ou pas, enfin bref, il avait obtenu un fromage inhabituel par rapport à ce qui était d'habitude, avec une couleur très bizarre, et on dit que c'était la légende du Gorgonzola. Alors, pour certains autres, c'était un aubergiste en Lombardie qui avait un stock de stracchino, c'est-à-dire qui était un vieux fromage plein de moisissures et qui avait d'autant plus de moisissures qu'il était assez âgé, qui le servit tel quel à table, en disant, pas voilà. Tout, hein, au lieu de le jeter, je vais le servir. Et puis, il était vert, bleu, il y avait des morceaux de persil. Et les gens ont dit, bon, mais finalement, c'est peut-être pas mauvais. Et on dit que c'est là, à partir du stracchino de Gorgonzola, on a créé ce fromage Gorgonzola. On s'est inspiré de cette vieillesse du fromage. Selon un autre, c'est un fromager qui a oublié son cahier toute la nuit et qui, le lendemain, pour ne pas le gaspiller, le coupa avec le lait du matin en obtenant un fromage avec des moisissures très proches de ce qui est le Gorgonzola actuel. Mais bon, alors on dit qu'il se localise dans la plaine du Pô parce que c'est le...
L'humidité
Oui, et puis que le... Oui, il peut être comme le Roquefort d'ailleurs, en grotte. Hein,
oui.
D'autres disent que le Gorgonzola provient de la région de Novara. D'autres, comme tu le précisais, d'autres ils disent donc plaine du Pô, purement le long de la plaine, parce que c'est le centre de passage des vaches quand elles reviennent des alpages. Enfin bref, tout ça veut dire qu'on a des versions très différentes. Par contre, ce qui est intéressant, et si vous voulez vous y exercer chez vous, on peut faire des desserts au Gorgonzola et des soufflés notamment, alors qu'on peut manger ou en dessert ou en soi, hein, avec 150 g de Gorgonzola, 5 décilitres de lait, 80 g de farine, 80 g de beurre, 4 œufs, sel et poivre blanc. Vous préparez une béchamel avec le lait, le beurre et la farine, et vous incorporez le Gorgonzola coupé en fines lamelles, ainsi que les jaunes d'œufs. Vous montez les blancs en neige, vous incorporez à la préparation, vous les incorporez, enfin les blancs en neige, vous les incorporez à la préparation en salant et poivrant. Vous beurrez un petit moule à souffler, vous remplissez le 2/3 à peu près, et vous mettez au four préchauffé à 180 degrés. Vous faites cuire 30 minutes. Alors, le soufflé, on peut le manger à n'importe quel moment, bon, en fin de repas. Mais il peut y avoir aussi des desserts glacés à partir de fromage.
Oui.
Les Italiens
J'ai font pas osé. Il y avait un...
Ils font des desserts glacés.
Il y avait un pâtissier qui faisait des glaces au fromage. Là, j'ai pas osé.
Oui, ça se fait. Hein. Alors, le Gorgonzola est un fromage que vous trouverez facilement ici. Hein. Il y en a au goût crémeux, par exemple, que vous pouvez mettre en toast pour l'apéritif. Là aussi, vous pouvez le boire avec un vin blanc ou un vin rouge. Après, la relation fromage et vin, c'est un peu comme en France. Hein. Il y a les passionnés du vin rouge pour le fromage et d'autres qui disent, mais non, pourquoi pas de vin blanc. Ouais. Le fromage, entre parenthèses, en Italie, qui est mangé aussi souvent avec des raisins et des fruits, d'autres fruits.
Donc l'idée d'aller à Cheese m'est venue parce qu'au départ, je voulais organiser un voyage de l'Inis. Donc j'ai voulu voir avant ce que c'était. Moi, je pense qu'on pourrait faire un voyage. Faudrait peut-être non pas rester une après-midi sur le salon, 2 heures suffisent parce qu'à force de goûter, on sature. Et puis, comme il n'y a pas de droit d'entrée dans une salle, on peut faire 2 fois 2 heures, 2 jours qui se suivent. Et puis, donc bien sûr, il faut que chacun prévoie sa glacière pour emmener le fromage. Et puis, on pourrait mêler ça avec des vins. Dans les langues. Alors, sans donner dans le Barolo entre 30 et 50 euros la bouteille, on peut trouver des Doliani et des Dolcetto à des prix tout à fait corrects.
Les langues qui est un peu un paradis de la gastronomie, quand même.
Voilà. Alors, surtout que Cheese a lieu pendant les vendanges, donc on pourrait réfléchir à mêler les deux.
Le Piémont en fromage, en vin, en truffe, en beaucoup de choses, est une région qui vaut le déplacement, c'est sûr, culinaire. Voilà, donc pour aujourd'hui et ce parcours du fromage. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours contacter Inis. On a des tas de choses à vous dire sur le fromage ou d'autres recettes.
Donc, on ne va pas dire au revoir, on va dire bon appétit.
On va dire bon appétit sur 97.1 avec à la technique toujours Laurent, qui prend des notes. Je le vois souvent prendre des notes. Je pense qu'il doit faire des essais culinaires de temps en temps quand même. Et donc, au prochain mois, on commencera peut-être le prochain mois
parler
de l'immigration et de tous les collectages qu'on a pu faire depuis 2 ou 3 ans. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée et puis bon mois.
Au revoir.
Au revoir. À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association Inis.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.